Les enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Des enjeux internationaux qui nous ramènent aux États-Unis. Lundi dernier, nous nous intéressions au programme économique de Donald Trump. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un aspect particulier de la politique étrangère de Barack Obama. Que reste-t-il du pivot asiatique du président américain? C'est la question que vous posez ce matin, Thierry Garcin. Bonjour.
Bonjour Émilie Chaudet et bonjour à tous, bien sûr. Que reste-t-il du pivot asiatique de Barack Obama? Notre invité Philippe Lecor, chercheur invité à la Brookings à Washington. Alors c'était en 2011 en fait que Barack Obama avait lancé le projet du pivot asiatique en compagnie d'ailleurs de sa secrétaire d'État Hillary Clinton. Le pivot asiatique, c'est le même mot d'ailleurs en anglais, était destiné à faire basculer le centre de gravité de la diplomatie américaine vers l'Asie-Pacifique. Alors ce qu'on constate en fait après 5 ans, c'est que la Chine, elle, a conforté sa place en Asie. Quelques éléments clés, les accords de libre-échange, le lancement d'une banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, le développement de ce qu'on appelle le collier de perles dans l'océan Indien, les routes de la soie à l'intérieur du continent, et puis l'occupation d'îles dans la mer de Chine méridionale. Alors de son côté, évidemment, Washington a lancé notamment un partenariat transpacifique. On va voir l'ensemble de cette question tout à fait considérable, évidemment, avec Philippe Lecor.
En fait, Hillary Clinton, secrétaire d'État, et son collaborateur Kurt Campbell, qui était donc chargé des affaires asiatiques, ont en 2011, à travers un article dans la revue Foreign Policy, qui s'appelait « Le siècle du Pacifique », le siècle américain du Pacifique, on définit cette politique de pivot asiatique, de rééquilibrage des États-Unis vers l'Asie et le Pacifique en général. Avec pour toile de fond le fait que la zone de croissance principale est en Asie-Pacifique, donc économiquement les enjeux sont très importants pour les États-Unis et stratégiquement, un peu pour les mêmes raisons, les États-Unis qui veulent rester une puissance d'Asie-Pacifique avaient tout intérêt à mettre leurs intérêts, à renforcer leur présence avec l'Asie.
Alors, qu'est-ce qu'il en reste finalement aujourd'hui? Est-ce que ça a été vraiment un pivot dans les faits?
Alors justement, les critiques assez vite ont fusé dans le sens où il y avait assez peu de concret et où les alliances qui de toute façon existaient déjà avec le Japon, la Corée, Singapour et quelques autres pays d'Asie du Sud-Est, dont les Philippines, elles ne se sont pas traduites par une augmentation très importante. L'objectif principal de l'administration Obama, dont c'était l'un des éléments phares, hein, je dirais, ce pivot asiatique, c'était de faire ce traité de libre-échange, le traité transpacifique. Donc là, on est en 2016, c'est le crépuscule de la présidence Obama, et on malheureusement, parmi les résultats de politique étrangère d'Obama et de Clinton, qui était donc sa secrétaire d'État pendant le premier mandat, le traité transpacifique n'est pas encore adopté du fait de problèmes au Congrès américain.
Une ratification nécessaire de part et d'autre.
Voilà. Et puis le fait que la candidate démocrate qui donc succéderait éventuellement à Obama, elle-même a changé son fusil d'épaule du fait de, enfin, pour des raisons de politique intérieure américaine, parce que finalement, au cours de la campagne, on s'est aperçu que les Américains, qu'il y avait un rejet des élites politiques et des traités commerciaux, et que les Américains de base, je dirais, finalement rejetaient certains accords de libre-échange parce qu'ils n'étaient pas à l'avantage des travailleurs américains.
Oui, c'est-à-dire que ce pivot américain tel qu'il avait été décidé il y a 5 ans n'a pas les moyens au fond de son projet global, puisque là aussi il y a une grande incertitude. On enfonce une porte ouverte, c'est que personne ne sait quelle sera la nature du Congrès, la composition du Congrès américain à partir de janvier 2017.
Ce qui est très embêtant pour les États-Unis, c'est que et pour leurs alliés asiatiques, c'est qu'on ne sait pas ce qui qui va se passer comme vous le disiez, en 2017. Et donc, il y a eu 11 pays d'Asie-Pacifique, dont des pays très importants, le Japon, la Corée, des pays d'Asie du Sud-Est, qui ont imposé leur signature sur ce traité. Donc, ils ont donné leur accord. C'était pas facile à mettre en place. Mais aujourd'hui, ce sont les États-Unis eux-mêmes qui leur disent, finalement, on va peut-être pas faire ce traité. Et bien entendu, il y a aussi le problème du candidat républicain, Donald Trump, qui lui veut remettre en cause les alliances stratégiques, là pas seulement sur le plan commercial, mais aussi sur le plan militaire, avec les principaux alliés de l'Amérique.
Avec des propositions ébouriffantes, c'est-à-dire rien de plus urgent que de rendre nucléaire le Japon.
Voilà. Et puis, quand on voit ce qui se passe en Corée du Nord, la péninsule coréenne qui est quand même dans un état de quasi-guerre, de fermer les bases américaines en Corée et au Japon, ou en tout cas de proposer à ces pays-là de payer l'intégralité, alors qu'ils payent déjà 70%, 80%, et que les États-Unis ont tout intérêt à garder cette présence militaire en Asie.
On retrouve au fond, en permanence, dans cette question de pivot américain vers l'Asie, la relation à la Chine. Alors, vous avez publié en français, il y a quelque temps, un ouvrage sur la Chine et l'Europe, qui vient d'être publié en anglais, c'est important quand même, à la Brookings. Je rappelle, vous êtes chercheur à la Brookings, et en anglais, donc, qui est complété, cet ouvrage refondu. On retrouve la relation à la Chine, qui est une relation duale, Washington-Pékin. Ça reste un axe, même si c'est un axe plus ou moins tordu, plus ou moins ductile.
C'est une relation extrêmement concurrentielle qui ne va aller que de mal en pis et qui, hélas, pour les États-Unis, se reflète depuis quelques années par une montée en puissance de la Chine en Asie-Pacifique, que ce soit sur le plan militaire et stratégique en mer de Chine avec la construction d'îlots et d'extension de ces îlots en mer de Chine que la Chine revendique, mais aussi en termes de géoéconomie avec la banque asiatique pour les investissements dans les infrastructures que la Chine a lancé donc en 2015, avec le soutien de nombreux pays, dont des pays européens, mais pas des États-Unis. Et puis le fameux projet de nouvelle route de la soie, One Belt One Road, qui finalement est un contrepoint chinois au traité transpacifique. C'est-à-dire que les Chinois disent, vous vouliez faire un traité de libre-échange transpacifique, ben nous on va investir dans les infrastructures. Notre projet c'est d'investir dans les infrastructures en Asie du Sud-Est, en Asie centrale, dans toutes les régions finalement où vous êtes déjà assez faible et où par-dessus le marché, dans un pays comme les Philippines, aujourd'hui, votre suprématie est même remise en cause.
Alors, ce qui est frappant aussi, et ça sera peut-être la dernière question, c'est au fond que le pivot, c'était par exemple endiguer évidemment la Chine, containment, et puis ne pas se faire imposer à terme dans le domaine économique des normes par Pékin, rassurer évidemment les alliés asiatiques des États-Unis dans la région, et en même temps, la Chine, elle pousse beaucoup davantage, on va dire, de façon homothétique ou symétrique, avec le collier de perles, les accords de libre-échange qu'elle signe, la banque asiatique venait d'en parler d'investissement pour les infrastructures, etc., le rôle de la soie, et ainsi de suite. Au fond, c'est loin d'être effectif.
Oui, et puis ce qui est frappant, c'est que il y a eu quand même depuis quelques années, il s'est contrairement à ce que l'administration Obama avait anticipé en 2010-2011, en pensant que le monde finalement allait se tourner vers l'Asie-Pacifique, finalement l'administration a été rattrapée par les événements au Moyen-Orient, par les événements en Europe, par la crise des migrants, par le terrorisme, et donc le pivot asiatique, certes, mais d'une part, est-ce que les États-Unis sont vraiment une puissance asiatique? Point d'interrogation. Et deuxièmement, est-ce qu'il ne faut pas plutôt un pivot européen ou un pivot moyen-oriental, puisque les problèmes n'ont fait que se multiplier?
Voilà, et puis ça soulève la question, vaste question, du rôle des États-Unis dans le monde, c'est-à-dire leur puissance, en tout cas reniée, altérée, incomplète, etc.
Avec le risque certain d'un candidat républicain qui a une politique étrangère totalement inconnue, conseillé par on ne sait qui, et franchement, on n'a jamais vu une situation où quelqu'un propose de mettre fin aux alliances des États-Unis, de finalement de replier les États-Unis sur eux-mêmes, dans un monde qui a plus que jamais besoin d'une grande puissance qui peut éventuellement intervenir dans des situations de crise. Et,
Philippe Lecor, juste d'un mot, que Trump est plutôt isolationniste de tempérament et de projet ou plutôt unilatéraliste ?
plutôt isolationniste, mais il y a beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas ce que le reste du Parti républicain, ce qu'il parviendra à lui imposer dans le cadre du Congrès, parce qu'heureusement, le rééquilibrage, il est aussi entre le Congrès et le président. Mais les déclarations à l'emporte-pièce qui ont été faites pendant la campagne augurent très mal d'une présidence Trump en Asie-Pacifique notamment.
Merci Philippe Lecor, chercheur invité à la Brookings à Washington. Et bien sûr, pour télécharger les émissions ou pour les réécouter, franceculture.fr. Et à demain.
À demain Thierry, il sera question dans les enjeux internationaux de la Géorgie à l'occasion des élections législatives qui se tiendront ce week-end, 6h56 sur France Culture.